Vous écoutez, on lit pour vous.
On n'est pas baqué. Coupable, un employé d'un centre jeunesse brise le silence. Un texte de Tommy Brochu, publié le 28 novembre 2025 dans La Tribune. Yannick Demers, 51 ans, a plaidé coupable d'avoir commis des voies de fait et des menaces contre deux adolescents lors d'une manœuvre de contention. Il a écopé d'une absolution conditionnelle à 240 heures de travaux communautaires. Lors de la première intervention problématique, la victime a tenté de s'enfuir du centre jeunesse. Après s'être fait frapper au visage, M. Demers a tenté une manœuvre de contention sur le jeune. Ça a brassé, relate la procureure aux poursuites criminelles et pénales au dossier, Maître Marie-Ève Faneuf. Le jeune ne collaborait pas à son intervention et a tenté de quitter, même si on lui demandait de s'arrêter. C'est dans ce contexte que le jeune s'est fait pousser au sol, s'est fait prendre par le chandail et s'est fait menacer. Lors du deuxième événement, le jeune impliqué avait l'habitude d'être en proie à une importante désorganisation. Il pouvait régulièrement être violent envers lui-même, envers autrui, bref, envers tout le monde. À l'occasion d'une procédure de contention, les voies de fait ont été livrées. On parle essentiellement de coups de genoux qui ont été portés, indique Maître Faneuf. Durant cette intervention, Yannick Demers s'est aussi fait frapper par l'adolescent. Également, la victime se mordait l'intérieur des joues afin de cracher du sang sur l'accusé. C'était des interventions difficiles. Mon client est ensuite tombé en arrêt de travail, en dépression, et a été suivi par un médecin. Il est revenu trop vite, estime son avocate, Maître Karine Poliquin. D'ailleurs, au moment des événements, l'homme avait dû revenir au travail plus tôt que prévu, lui qui était en arrêt de travail pour des chocs post-traumatiques à la suite de certaines interventions. Il devait revenir au travail de façon prématurée à cause du manque de personnel, a expliqué Maître Poliquin. C'est moi qui voulais revenir, a précisé l'accusé durant une entrevue après l'audience. Il manquait de personnel et il y avait eu une émeute. Je suis un gars d'équipe. Mes collègues étaient dans la misère. Je voulais revenir, mais je n'étais pas prêt. Je faisais encore des cauchemars et j'entendais crier la nuit, dit-il, se rappelant une jeune femme qui se cognait la tête dans les murs. On n'est pas baqué par le centre jeunesse, a ajouté en pleurant Yannick Demers durant l'audition devant le juge Alexandre Tartif. J'ai un secondaire 5. On m'a lâché là. J'ai tenté de gérer comme un père de famille du mieux que j'ai pu, mais j'ai vu des tentatives de suicide. Je n'étais pas là pour ça. Il y a plusieurs années déjà que le personnel de Val-du-Lac lance des cris d'alarme sur les conditions de travail difficiles au centre jeunesse. Il y a 18 mois, le président directeur général du CIUS de l'Estrie-CHU reconnaissait d'ailleurs que, sur ce qu'on voudrait offrir en termes de réadaptation, on n'est pas là du tout. J'ai mal réagi. En entrevue avec les médias après l'audience, M. Demers a reconnu avoir dépassé les bornes. J'ai vu plein de choses que personne ne devrait voir dans un centre jeunesse. Je suis intervenu physiquement. C'était mon rôle lorsqu'un jeune fuguait et qu'il était menaçant. Mon rôle était de l'arrêter. On m'a frappé, on m'a craché du sang dessus. J'ai vraiment mal réagi, a-t-il admis. Après avoir mangé 3 coups de poing, j'ai perdu la carte. J'ai réussi à ramasser le jeune. Je n'ai pas été fin avec lui, et j'ai dit des choses que je regrette, a précisé l'homme. Quand on a craché du sang sur moi, j'ai paniqué, ajoute-t-il. Je l'ai frappé, a-t-il continué, en parlant du deuxième événement. L'accusé a aussi critiqué le manque de formation offerte par le CIUS aux agents d'intervention. On avait une formation pour se défendre, mais c'était soft. Je n'avais pas de technique pour réagir lorsque je me faisais frapper. Psychologiquement, on n'avait rien. J'ai enlevé des cordes autour du cou de certaines jeunes filles et j'ai ramassé le sang de jeunes qui se plantaient des crayons dans les bras. Mais je n'ai pas été formée pour ça. S'attriste celui qui est actuellement en recherche d'emploi. Monsieur Demers souhaite plus de personnel au centre jeunesse, que celui-ci soit mieux encadré. Le personnel fait son possible et fait tout ce qu'il peut, mais il souffre, conclut celui qui pense encore aux jeunes avec qui il travaillait. Excuse. Durant l'audience, l'ex-agent d'intervention a offert des excuses aux deux plaignants. Il pense aux événements chaque jour et chaque nuit, a-t-il livré entre deux sanglots. Premièrement, je demande pardon aux deux adolescents que j'ai contentionnés et brutalisés. J'ai réagi avec colère. J'ai lamentablement échoué. Pour moi, une contention physique est déjà un échec. Il a ensuite demandé pardon à sa famille, à sa conjointe, puis aux jeunes et à ses anciens collègues. Maintenant, j'espère que mes paroles et mes gestes n'auront pas eu de conséquences désastreuses sur ces gens. Je vais maintenant écouter les conseils de mes collègues et prendre soin de ma santé mentale, dit celui qui commence à aller mieux. Après avoir exécuté ses travaux communautaires, Yannick Demers devra poursuivre son suivi médical et devra s'abstenir de contacter les victimes au dossier. « J'ai une pensée pour mes collègues », a conclu M. Demers. « Les éducatrices se font traiter de tous les noms et sont menacées de se faire violer. C'est difficile. On voit ça à la journée longue. Le manque de personnes, ça va faire en sorte que des cas comme moi, il y en aura d'autres. » C'était « On n'est pas baqué. Coupable, un employé d'un centre jeunesse brise le silence », un texte de Tommy Brochu, publié le 28 novembre 2025 dans La Tribune.
La proche aidance et le répit. Un dossier paru dans le numéro 166 au printemps 2025 du magazine Paraquad. Être proche aidant, qu'est-ce que c'est? Beaucoup sont amenés à occuper ce rôle durant leur vie, mais peu se reconnaissent comme tels. Pourtant, cet incroyable don de soi vient parfois avec son lot de conséquences. Il arrive que l'épuisement s'installe insidieusement. Ne pas penser à soi et tout sacrifier pour l'autre, parce que c'est normal d'aider, c'est courir des risques pour sa santé, mais aussi se priver de beaux moments de bonheur. Trouver son équilibre et son bien-être à travers la proche aidance, c'est possible. Voici quelques pistes. L'immense aide et soutien que fournissent chaque jour les proches des personnes lésées médulaires n'est pas passé inaperçu aux yeux de l'équipe de Mémo Québec. Depuis plusieurs années déjà, elle cherchait un moyen de s'adresser à eux, à ces personnes proches aidantes dont elle avait déjà perçu certains signaux de détresse. Un financement pour une année. C'est à la fin de 2022 que l'opportunité d'un financement par le chantier de l'économie sociale et la FFMSQ, la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, s'est présentée et que Mémo Québec a eu l'idée de lancer un projet pilote. L'objectif était d'offrir du répit aux proches des membres dans au moins 3 régions différentes du Québec. C'est-à-dire qu'ils aient la possibilité pendant 24 heures, 48 heures ou encore 3 jours de faire autre chose, de sortir de leur quotidien, de ne penser qu'à eux et de prendre soin d'eux, pendant qu'une ressource se rendrait à leur domicile pour prendre en charge la totalité des besoins de la personne aidée pendant cette période de temps. Ou alors, sans aller jusqu'à une longue période d'absence, ce répit pourrait également prendre la forme d'un soutien ponctuel pour effectuer des tâches ménagères, faire l'épicerie, tenir compagnie à la personne ou encore apporter certains soins d'hygiène. Le financement était là. Restait à concrétiser le projet facile, croyaient les membres de l'équipe en charge du projet, notamment Nathalie Michaud, la directrice générale adjointe de Mémo Québec. Pas si sûr. L'organisme a eu l'idée, tout d'abord, d'interroger les membres pour recenser leurs véritables besoins et ne pas les présumer. D'abord, sensibiliser les membres au concept de proche aidance. Mais ce chantier, que l'équipe de Mémo Québec pensait ô combien pertinent, s'est finalement avéré difficile à réaliser. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait d'abord sensibiliser nos membres et leurs proches au concept de proche aidance et à sa définition. C'est quelque chose dont nous n'avions pas beaucoup parlé par le passé, constate Nathalie Michaud. En effet, très souvent, les proches aidants n'ont tout simplement pas conscience de leur rôle. Un constat que Mémo Québec n'est pas le seul à faire, mais qu'il vient de découvrir. Et sans reconnaissance d'un rôle ou appropriation d'un titre, la route vers l'identification d'éventuels besoins de pause ou d'aide devient rocailleuse, et encore plus, celle qui mène à une demande de répit. Après une première année de test, il convient donc, pour Mémo Québec, de revoir sa stratégie en faisant un pas de recul, celui de la sensibilisation des proches au rôle qu'ils occupent au quotidien. Les étapes du projet. Un comité aviseur, composé de différents membres de l'équipe, d'une membre du conseil d'administration, de membres de l'organisme et d'une ergothérapeute qui travaille depuis plusieurs années avec les personnes lésées médulaires, a été créé pour se pencher sur la question et définir les grandes orientations du projet. C'est ensuite, en mars 2024, que Sylvia Diaz est embauchée pour débuter ce projet pilote. Sylvia a longtemps travaillé dans les entreprises d'économie sociale en soins à domicile, EESSAD. Sa tâche lui demandait d'abord de s'entretenir avec des membres de Mémo Québec et leurs proches pour prendre connaissance de leur situation, évaluer leurs besoins en termes de répit et ensuite les orienter vers les ressources existantes dans leur région. Les personnes interrogées étaient, pour la plupart, référées par les conseillers principaux en intégration et les mieux placées pour connaître les situations de chacun. Les constats. Après des entrevues poussées parfois de plusieurs heures avec 25 membres ayant une lésion médulaire et le proche qui les aide au quotidien, et ce, dans 10 régions différentes du Québec, plusieurs constats sont rapidement apparus à Sylvia. Les proches ne s'identifient pas ou peu en tant que personnes proches aidantes et ne se reconnaissent pas dans ce rôle. Même s'ils disent vivre des situations difficiles, voire très difficiles ou être à bout de souffle, ils n'envisagent pas d'emblée d'avoir recours à du répit. Le répit n'est pas toujours vu comme une solution simple à mettre en place, ni comme la solution la meilleure pour différentes raisons. Coût, manque de confiance, manque de ressources, etc. Malgré les recommandations ou les mises en contact avec des organismes de répit à la suite d'un besoin que Sylvia a rapidement perçu, les membres concernés ont pu retourner ces appels ou consenti à faire appel au répit. La suite. Le projet pilote arrivant à sa fin en mars 2025, l'heure est à l'évaluation et au constat. Mémo-Québec doit effectuer un retour en arrière pour tenter de découvrir quels sont les freins rencontrés par les membres et leurs proches quand vient le moment de faire appel au répit malgré les besoins criants identifiés. Nous avons encore besoin de travailler sur le sujet, sur la recension de la proche aidance et les besoins, identifier ce qui coince. Les besoins en répit ne sont pas ceux auxquels nous nous attendions. Nous devons comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Nous avons déjà plusieurs pistes de réponse et de réflexion dans ce sens, détaille Nathalie Michaud, directrice générale adjointe de Mémo-Québec. 6 membres sur les 25 interrogés ont tout de même utilisé les services de répit qui leur ont été proposés et qui étaient offerts dans le cadre de ce projet pilote. De belles collaborations avec des entreprises d'économie sociale d'aide à domicile, les EESAD, ont également été engagées et Mémo-Québec compte poursuivre son projet en l'orientant davantage vers le conseil et la sensibilisation. Le cas particulier de l'aide aux personnes avec une lésion médulaire. Mémo-Québec va également finaliser la création d'un atelier de formation d'une journée qui se voudra un complément de connaissances destiné aux préposés et aux auxiliaires pour les sensibiliser à la réalité spécifique des personnes vivantes avec une lésion médulaire. C'était le projet pilote de Mémo-Québec, un texte d'Aline Vancon-Pernol paru dans le numéro 166 au printemps 2025 du magazine Paraquad.
Charlie Rousseau, la comédienne, ne compte pas s'arrêter à Vestiaire. Propos recueillis par Aline Vancon-Pernol dans l'édition Été 2025, numéro 167 de la revue Paraquad. C'est une jeune femme pétillante, souriante, naturelle et très sociable que je retrouve au stationnement du Décathlon à l'occasion du lancement de la campagne de stationnement réservé pour les personnes en situation de handicap lundi 2 juin. Quand Charlie Rousseau me dit que ses amis oublient souvent qu'elle est en situation de handicap, je confirme qu'il suffit de plonger dans ses grands yeux amicaux pour lui donner raison. Charlie ne saurait se définir ni par son métier, elle est une touche-à-tout, ni par son handicap, elle trouve le mot péjoratif et n'aime pas l'entendre quand on parle d'elle, mais certainement par sa fougue, ses idées et son irrésistible envie de croquer la vie à pleines dents. Entrevue avec l'une des stars de la série Vestiaire. Régalez-vous. Aline Vancon-Pernol. Nous te remercions énormément d'être la porte-parole de notre campagne de stationnement réservé. Je vois que tu soutiens de nombreuses causes. Est-ce que c'est important pour toi? Charlie Rousseau. Oui, je m'engage pour des causes auxquelles je crois vraiment. Comme je le disais tantôt dans mon allocution, note de la rédactrice lors du démarrage de la campagne, quelques semaines avant que Mémo-Québec me sollicite, j'ai commencé à dénoncer le non-respect des stationnements réservés sur les réseaux sociaux. Avoir un stationnement réservé, c'est une nécessité, ce n'est pas un luxe. J'ai 28 ans et j'ai toujours été en situation de handicap. Ce message, je vais le porter et pas seulement au mois de juin. Je pense que l'engagement peut vraiment faire la différence. Aline Vancon-Pernol, comment as-tu été amenée à faire de la comédie? Charlie Rousseau, j'ai toujours été attirée par la communication. J'ai pris des cours de danse, de chant et de théâtre quand j'étais plus jeune. C'est certainement là que j'ai bâti mon estime de moi. J'ai toujours aimé raconter des histoires et mes parents m'ont poussée à me lancer dans ce que j'aimais. Si j'avais voulu être dentiste ou coiffeuse, je l'aurais fait pareil. J'aurais trouvé un moyen. Après le secondaire, j'ai étudié dans la radiodiffusion et je suis devenue animatrice radio. Ma première apparition à la télé était dans « Gang de malades » sur Z. C'était très similaire au « Détestable ». Vestiaire est ma première fiction. On m'a proposé d'auditionner et ils ont vu que j'avais une certaine facilité. L'équipe a été choisie parmi plus de 100 candidats. Depuis, j'ai la piqûre. Tous les métiers de la communication m'intéressent. Je suis très sociable, j'aime apprendre de l'histoire des gens et partager la mienne. AV. Est-ce pour ça que tu participes à beaucoup d'entrevues?
CR.
Oui, j'en profite pour sensibiliser. J'ai même commencé à faire des conférences. Moi qui pensais que c'était réservé aux personnes de 50 ans et plus. Je suis allée parler dans des organismes, des entreprises, des écoles secondaires. Il y a une communauté sur les réseaux sociaux qui a la vingtaine et des ados à qui je peux raconter mon quotidien. Je suis certaine qu'il y a plein de gens qui aimeraient me demander comment je frise mes cheveux, mais qui n'oseraient pas me poser la question directement. Sur les réseaux sociaux, ils peuvent le savoir sans avoir besoin de demander. Je suis sensible à la différence, à l'estime de soi, à la confiance en soi. Que l'on soit avec ou sans handicap, d'ailleurs, c'est ça qui est le plus important. Il est évident qu'on va tomber, mais apprendre à se relever permet de conduire au succès.
AV. D'où tiens-tu ta confiance en toi?
CR. De mon éducation durant mon enfance, de mon entourage, de ma famille et de mes parents. Ils m'ont toujours traitée comme si je n'avais pas de handicap. Mon père disait « Celui qui n'est pas capable, il est mort. Son petit frère s'appelle Essayer. » Ça fait un peu cliché, mais c'est vrai. Mon père m'a poussée et j'ai toujours fait ce que je voulais faire. Il n'y a pas grand-chose que je ne peux pas faire.
AV. Comment te prépares-tu pour la série Vestiaire?
CR. L'équipe commence souvent par des lectures de groupe. Tous les comédiens sont assis autour de la table et lisent les textes sans les jouer. Puis, je travaille seule. Je m'enregistre et je laisse des blancs. Ensuite, j'écoute les enregistrements des autres et c'est moi qui comble leurs blancs. On répète aussi beaucoup sur le plateau. Depuis 2 ans sur le tournage, il y a un coach de jeu. Ça aide beaucoup entre les scènes et parfois aussi, il nous donne des idées d'interprétation plus précises auxquelles on n'avait pas forcément pensé.
Aline Van Compernol, ressens-tu de l'adrénaline quand tu entends le mot « action »
Charlie Rousseau.
Oui, il y a toujours un petit stress à ce moment-là. Maintenant, Vestiaire en est à sa 2e saison. Alors je me sens plus à l'aise. Au début, je me disais « Si je rate, je vais mettre tout le monde en retard. Ils vont me détester. »
Mais pas du tout.
Aline Van Compernol, as-tu été surprise du succès de la série?
Charlie Rousseau.
Pour être franche, non. J'aurais été surprise que ça fasse un flop. Je savais que c'était bon. Ça fait 12 ans que ça marche en France et les Québécois ont l'esprit plus ouvert. Je reçois uniquement des commentaires positifs. La série touche beaucoup de générations, même des jeunes qui n'ont pas le câble et qui regardent en ligne.
Aline Van Compernol, est-ce plus facile de parler du handicap avec humour?
Charlie Rousseau.
Bien sûr, l'autodérision fait partie du handicap. J'ai toujours eu l'humour facile. Et puis, la vie est plus drôle. Cela permet d'entrer en contact avec les gens. C'est aussi une façon d'enlever le malaise. Même si je m'accepte, je m'assume et je m'aime comme je suis, je sais qu'il y a toujours des personnes qui n'auront pas le même regard. Les réseaux sociaux aident beaucoup dans ce sens. Les gens sont curieux de voir mon quotidien.
AV. Tu aimerais continuer à faire de la télé?
CR.
Oui, j'aimerais beaucoup. J'espère qu'il y aura une 3e saison de Vestiaire. Ce n'est pas encore confirmé. J'ai espoir. La série est en France depuis 12 ans.
J'aimerais aussi jouer ailleurs. J'attends les opportunités. J'aimerais jouer un rôle qui ne soit pas en lien avec mon handicap. Ou alors, il serait évoqué rapidement, mais sans plus. Je pourrais jouer une secrétaire dans Stat, j'en suis sûre. Peut-être pas une chirurgienne, il faut être réaliste.
J'attends ce genre d'ouverture. J'en parle beaucoup. Je suis à 100% pour faire tomber les barrières. Je vois que les mentalités sont en train de changer, mais ça ne va pas assez vite.
AV. Ton handicap a-t-il été un frein dans ta vie et ta carrière ou t'a-t-il aidé?
CR. Je dirais que mon handicap m'a aidé. Quand j'étais ado, j'aurais certainement dit le contraire. Mais je ne serais pas qui je suis sans mon handicap. C'est mon moteur, il me permet d'avancer et aussi de m'engager pour une cause. Il me permet naturellement d'être différente. Être différent, c'est un atout, surtout en 2025. C'est plate d'être normal. Si on n'a rien de bizarre, on est bizarre. J'ai la chance d'être née avec plusieurs caractéristiques uniques et j'ai décidé de transformer ça en force. AV, où trouves-tu toute ton énergie?
CR, je ne sais pas. Je veux tout faire. La pire question qu'on pourrait me poser, c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? »
Je fais trop de choses. Mon premier amour, c'est la radio, mais je veux aussi faire un one-woman show, avoir mon propre talk show. Je suis insatiable. Depuis toujours, je dis qu'on n'a qu'une seule vie à vivre. Je vis la mienne à 100 à l'heure.
Aline Van Compernol, que dirais-tu aux personnes en situation de handicap qui veulent accéder à l'art et la culture?
Charlie Rousseau, ne te laisse pas définir par la société, par ton handicap ou par tes croyances limitantes. Si tu as une passion dans la vie, essaie-la. Si tu aimes chanter, prends des cours de chant. Il suffit d'être entouré par les bonnes personnes. Fais ce que tu aimes faire.
Aline Van Compernol, comment vois-tu ton handicap?
Charlie Rousseau, je ne vois que du positif. Il me permet de me démarquer. D'ailleurs, on dit « handicap », mais ce n'est pas vraiment un handicap. C'est un mot péjoratif quand on lit sa définition. Il signifie « pas capable ». Ce n'est pas vrai. J'ai fait plus de choses dans ma vie que beaucoup de personnes qui n'ont pas de handicap. Ce sont les limitations, les peurs qui sont dans la tête qui sont les plus fortes.
C'était Charlie Rousseau, la comédienne ne compte pas s'arrêter à Vestiaire. Propos recueillis par Aline Van Compernol, paru dans l'édition Été 2025, numéro 167 de la revue Paraquad.
Les statistiques au Québec en 2018. Vous n'êtes pas seul à être proche aidant. Un texte de la rédaction paru dans le numéro 166 au printemps 2025 du magazine Paraquad. La définition de proche aidance de Statistique Québec. Qu'entend-on par proche aidance? C'est de l'aide ou des soins fournis à des membres de la famille, à des amis ou à des voisins, pour un problème de santé existant depuis au moins 6 mois ou qui pourrait perdurer 6 mois ou plus pour une incapacité physique ou mentale ou pour des problèmes liés au vieillissement. Elle peut prendre la forme d'aide fournie pour les déplacements, les courses, l'entretien de la maison, les soins personnels ou toute autre activité. C'était les statistiques au Québec en 2018. Vous n'êtes pas seul à être proche aidant. Un texte de la rédaction paru dans le numéro 166 au printemps 2025 du magazine Paraquad.